Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes,
infusée de musique locale
et émergente,
saupoudrée de vie associative.
Mais what ?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ou bonjour. Vous écoutez Campus Grenoble 90.8, c'est l'apérophonie. Sur Campus, l'apérophonie, c'est l'émission des bénévoles du collectif de la radio qui vous parle de la vie dans l'agglomération et dans ses pourtours. Elle est diffusée le soir à 18h et le lendemain à 8h. Si c'est un jour ouvré, vous pouvez l'écouter et la réécouter en passant par le site de la radio, campusgrenoble.org, qui vous permet d'écouter la radio en direct partout, tout le temps, avec votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, que sais-je encore, et puis aussi réécouter vos émissions préférées grâce à la fonction podcast. Ce soir, dans l'apérophonie, je reçois Monsieur Pierre Bréchon, professeur émérite de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, approchez-vous un tout petit peu plus du micro.
Oui.
Parfait. Et vous avez été le directeur de Sciences Po Grenoble pendant quelques années.
Oui.
Vous connaissez bien la maison, donc.
Oui, oui.
Et vous êtes la cheville ouvrière du forum de l'événement qui se tiendra ce lundi 3 février à 18h30 au CTM, le centre théologique de Mélan, 15 rue de la Caronnerie à Mélan, un bien bel endroit. Et comme d'habitude, le forum de l'événement, vous allez recevoir deux spécialistes qui vont traiter d'une question extrêmement brûlante cette fois-ci. Ça s'appelle le thème « Un Proche-Orient à feu et à sang ». Plus d'actualité que ça, c'est difficile à faire.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais cela dit, c'est une actualité récurrente puisque
malheureusement,
le pays traverse des soubresauts, des guerres depuis au moins 70 ans.
Facilement, oui. Alors, bon, comme à chaque fois que je vous reçois, on va réexpliquer comment marche le forum de l'événement. Ce n'est pas des cours magistraux.
Oui, non, c'est un forum. Donc, un forum, ce n'est pas une conférence. C'est pour éclairer les gens qui viennent pour aller au-delà de ce qu'ils peuvent connaître par les principaux médias d'information. Et c'est aussi pour exprimer des opinions. Donc, il y a quand même des points à comprendre. Ceux qui viennent n'ont pas toujours une information complète. Même en général, ils ne l'ont pas. Et personne n'a une information complète.
C'est pour ça qu'on fait appel à des spécialistes.
Voilà. Donc, on fait appel chaque fois à deux spécialistes du sujet ou du thème. Et sur chacun de ces spécialistes, on leur demande d'intervenir trois fois cinq minutes.
Sur
trois sous-questions. Mm-hmm. Donc sur le thème « Un Proche-Orient à feu et à sang », on aura trois questions qu'on va présenter tout à l'heure, je suppose.
Bien sûr.
Et simplement, je dis auparavant qu'on garde le dernier quart d'heure du forum, qui se termine à 20h30, on garde le dernier quart d'heure pour choisir le thème de la fois suivante. Et donc, le prochain forum aura lieu le lundi
24 mars. Alors, les spécialistes auxquels vous avez fait appel vont traiter donc trois questions en rapport avec le thème pendant 5 minutes. Et ensuite, il y a un échange avec les gens qui seront présents.
Tout à fait. Donc, il y a après 2 fois 5 minutes... à nos intervenants, il y a 20 minutes avec l'auditoire qui est en général assez fourni. Et donc, les débats sont très riches.
Forcément. Alors, on va rappeler que ça se tiendra lundi 3 février à 18h30 au CTM de Mélan, que la participation est à prix libre.
Oui, voilà. Donc, il y a une cagnotte, il y a une caisse et chacun fait selon ses moyens.
Et si on ne peut pas venir, on peut y assister en visioconférence.
Tout à fait.
Il faut aller sur le site du CTM, donc c'est www.ctm-grenoble.org. Vous aurez le lien Zoom, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça.
Pour y assister. Et même quand on y assiste en direct, on peut poser des questions.
Quand on assiste en distanciel.
En distanciel, on peut poser des questions.
On peut poser des questions, oui, tout à fait.
C'est vous d'ailleurs qui avez le rôle de modérateur.
Moi, je suis...
Le monsieur loyal.
Je suis le maître des horloges.
C'est ça, vous faites respecter le timing.
Respecter le timing, et il y a quelqu'un d'autre qui... récolte les questions.
Excellent.
Qui sont quand même surtout dans la salle, parce que beaucoup de gens n'osent pas...
Oui, c'est plus compliqué quand on est chez
poser
soi.
...poser des questions depuis leur ordinateur.
Et ensuite, si on ne peut pas être disponible ce lundi 3 février à 18h30, le forum sera consultable depuis le site du CTM.
Oui, la visio est mise sur le site.
Il n'y a qu'à cliquer, c'est très pratique. Ou sinon, vous allez sur le podcast de cette émission qui sera fait dès qu'on aura terminé celle-ci et vous aurez les liens directement. Alors donc, le thème de cette fois-ci, qui a été décidé lors du précédent forum par vote, c'est donc un Proche-Orient à feu et à sang. Et est-ce que vous pouvez présenter les deux spécialistes qui vont intervenir ?
Oui, tout à fait. Ce sont deux enseignants de l'université Grenoble-Alpes. Et pour le premier, il enseigne aussi à Sciences Po. Mm-hmm. Donc, Jamil Saya, qui est professeur de droit public donc à l'UGA et à Sciences Po, et qui est chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le CERDAP2.
D'accord.
Et puis donc le deuxième, c'est Taha Zakaria, qui est maître de conférence en civilisation arabe à l'université Grenoble-Alpes, et il est rattaché à un laboratoire qui s'appelle le ILCEA4.
Ouh, ça c'est des acronymes.
Oui, oui.
Alors, on va détailler les trois questions qui vont être abordées. Donc, on va faire une recontextualisation historique depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre en préambule, quoi.
Donc, il y a deux questions qui sont, on va dire, sur des aires géographiques à l'intérieur du Proche-Orient. Le premier, c'est les événements après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Donc, évidemment, c'est le Hamas, c'est Gaza en lien avec Israël et avec son environnement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 octobre? Et puis, donc, ensuite, on aura la Syrie. Et puis, une troisième question qui est plus internationale sur les principaux acteurs internationaux et leur positionnement.
Alors, c'est vrai que la chute du régime syrien, forcément, ça rebat les cartes assez considérablement sur tout le territoire.
Oui, tout à fait.
D'autant que c'est plutôt inattendu que ce soit déroulé de façon aussi rapide.
Voilà. Donc, au fond, quand on a choisi le titre... un Proche-Orient à feu et à sang, on avait vraiment l'impression d'une situation complètement bloquée. Et puis, très vite, ça s'est débloqué en décembre avec à la fois l'effondrement de la Syrie, un accord de fin de guerre entre le Liban et Israël, et puis aussi une trêve ensuite, en janvier, une trêve sur les otages les otages israéliens aux mains du Hamas.
Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a eu un enchaînement ultra rapide, parce que quand on se rappelle ce qu'on appelle la guerre en Syrie depuis le temps que ça dure, on n'imaginait pas que le régime Assad s'effondrerait en à peine quelques jours.
Oui, en 15 jours. Ça a été très étonnant et ça montre combien le régime était en fait très affaibli.
En
bout de course, d'une part. Et puis combien il a été aussi... en perte de ses soutiens, puisque
c'est ça, abandonné par ses ses alliés,
par ses alliés, le Hezbollah très affaibli du fait de de la guerre au Liban et de l'attaque d'Israël qu'il visait principalement au Liban Sud, mais aussi dans la Bekaa, dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc il y a tout ce contexte libanais, le contexte aussi je ne sais plus ce que j'allais dire.
Mais c'est vrai que la situation dans les pays limitrophes a aussi pas mal bougé.
Oui.
Il y a un nouveau pouvoir en Iran, il y a un nouveau pouvoir qui était sur le point d'arriver aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui, tout ça joue. Et la Russie, voilà, c'est ça que je voulais dire, la Russie est aussi
dans une autre situation.
Dans une situation difficile. Elle est mobilisée en Ukraine et donc elle avait beaucoup de mal à maintenir
son soutien au régime Assad.
Oui. Donc l'armée était très démobilisée, très corrompue, et donc tout ça a joué. Le régime s'est effondré comme un château de cartes. En 15 jours, l'offensive des groupes partis de la région d'Idlib
sont arrivés
à Damas.
Sans doute plus vite qu'ils ne le pensaient d'ailleurs.
Oui. Et ils ont été aidés par d'autres groupes, puisque la Syrie, depuis 2012, c'est très morcelé, puisqu'il y a de nombreux groupes, selon les régions,
qui tiennent une
partie du territoire. Et le contrôle de Assad sur la Syrie était déjà très amputé ces dernières années.
C'est ça, ça se limitait un peu à la bande en bord de mer.
Ça a dépendu
c'était un peu fluctuant. Mais...
Ça a été très fluctuant.
Et justement, du fait qu'il y avait plusieurs groupes en Syrie qui intervenaient avec des soutiens extérieurs, dont la situation a également bougé assez récemment, ça a un peu tout déstabilisé. Ça explique sans doute l'effondrement de la chose.
Oui, donc...
C'est la théorie des dominos, là, d'un coup.
Ouais.
On en revient aux bonnes vieilles époques de la guerre froide.
Ouais.
La bonne vieille théorie des dominos, on n'est pas rentré. Et puis c'est vrai, parce qu'effectivement, il y a le changement sur place, mais le contexte international a forcément, comme on le disait, beaucoup joué.
Oui. Donc c'est ce qu'on abordera dans la troisième question. Donc, et les acteurs internationaux, au fond, le Proche-Orient, depuis très longtemps, et c'est des États faibles. C'est des États faibles. C'est plutôt des États autoritaires, mais en même temps qui ont des faiblesses. Le plus faible, c'est évidemment le Liban. Mais le clan Assad, au pouvoir depuis 70 ans en Syrie, il a la faiblesse des régimes autoritaires. Et puis, il a la faiblesse d'un pays, au fond, c'est des clans, quoi. C'est des clans depuis très, très longtemps. Et donc, l'unité du pays a toujours été difficile à faire et à maintenir.
Et puis, ce sont des États petits géographiquement.
Oui. Le Liban est très petit, mais la Syrie...
La Syrie, à l'époque, était plus étendue.
Même maintenant, elle est quand même...
Ce que je veux dire, c'est que la partie que contrôlait le régime Assad était devenue tellement petite qu'il y avait peu de ressources et que pour alimenter une armée forte, un système policier très puissant et des services secrets...
Cette armée, elle était très soutenue par à la fois la Russie et par l'Iran.
C'est ça.
Donc, et à partir du moment où ces deux canaux s'effondrent, évidemment, le régime a du mal à tenir.
C'est ça. Plus de soutien militaire venant de Russie, l'approvisionnement en pièces détachées et en armes étant évidemment recentré vers le front ukrainien pour les Russes.
Oui.
Et puis le changement à la tête de l'État iranien fait que les perspectives basculent.
Il semble que Assad est allé à Moscou juste après le début de l'offensive.
En Ukraine
début de l'offensive, partie d'Idlib, donc début décembre. Et, Et là, dans ses échanges avec Poutine, Poutine lui aurait clairement annoncé qu'il n'y aurait pas de soutien face à cette offensive-là.
Bah oui, parce qu'eux-mêmes sont déjà obligés d'aller demander des supports nord-coréens. Donc, forcément, ils ne pouvaient plus rien fournir. Et puis, les derniers mouvements de l'administration Biden sur le terrain aussi, au niveau diplomatique, peut-être fait converger certaines volontés.
Oui, Biden avait très envie d'amorcer des choses avant de partir.
Et puis les États du Golfe aussi ont joué leur rôle dans le cadre des négociations.
Voilà, l'Arabie Saoudite revient dans le jeu. Le Qatar a été beaucoup au centre des négociations pour la trêve, pour les échanges d'otages à Gaza. Et donc, il y a eu une espèce de conjonction des planètes pour que le climat soit un peu meilleur depuis un mois, mais
c'est encore fragile.
C'est très 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 fragile puisque la chute d'Assad, dans un premier temps, elle réjouit tout le monde parce que c'était un régime vraiment extrêmement sanguinaire et répressif. Donc les portes des prisons sont ouvertes. Donc il y a des gens qui sont sortis, qui étaient en prison depuis 40 ans. Hein, donc,
c'est ça, depuis le papa.
Voilà, depuis quasiment le papa. Donc il y a eu une liesse populaire, mais...
Il faut conquérir la paix.
Le nouveau pouvoir qui essaie de montrer sa modération, on verra ce qu'il en sera dans quelques mois. Ce nouveau pouvoir, il a pas pour l'instant la main sur l'ensemble du territoire.
Non.
Il y a par exemple le problème des Kurdes, de la région kurde qui revendique son autonomie.
Depuis tellement longtemps.
Depuis très longtemps. Donc,
et qui a des forces militaires assez importantes.
Oui, oui. Donc ça va être assez compliqué de
mettre tout le monde autour de la table et trouver quelque chose.
De la table, voilà, et d'avoir d'unifier le pays. La région où il y a le plus de chrétiens qui, au fond, s'entendaient pas trop mal avec... Assad les a pas trop martyrisés. Ils vont peut-être y regarder à deux fois avant de prêter allégeance au nouveau pouvoir.
C'est ça. Et effectivement, il va falloir trouver des interlocuteurs venant de l'extérieur capables de mettre tout le monde autour de la table et de les faire converser sans que ça vire au bain de sang.
Et ça se fait pas d'un coup de baguette magique, non. Comme le croit parfois Monsieur Trump. Dans la dernière déclaration sur Gaza, c'est que il y a deux jours, c'est qu'il fallait faire partir tout le monde de Gaza parce que le territoire est en effet complètement
saccagé
et qu'il fallait que les Gazaouis aillent soit en Jordanie, soit en Égypte.
Super, ils vont être contents, les voisins.
Oui, d'une part, les voisins n'en veulent pas.
Oui.
Et puis, ça veut dire que c'est ouvrir la porte à Israël pour coloniser, mettre des colons à Gaza.
Et oui.
Dans cette bande de terre, je le rappelle, qui fait 40 km de long et 10 km de large et qui comporte 2,5 millions d'habitants qui aujourd'hui d'ailleurs sont en plus zonés et avec une concentration extrêmement forte sur un territoire qui est pas beaucoup plus grand que la ville de Limoges.
Voilà, sans la porcelaine, parce qu'après les bombardements, il ne resterait plus rien.
Voilà, j'ai pris ma comparaison dans
à dessein.
Dans l'article du bilan du monde publié par Le Monde sur 2025.
Très bien. Donc, on rappelle que le forum de l'événement se tiendra ce lundi 3 février à 18h30 au Centre théologique de Mélan, qui se trouve évidemment à Mélan, qu'on peut y assister en présentiel Mais sinon, on peut suivre le forum depuis chez soi, son ordinateur, via Zoom, en allant cliquer sur le lien qui sera mis à disposition le jour même sur le site du CTM, c'est ctm-grenoble.org, c'est assez facile à faire. Et que donc, bah, le thème, c'est un Proche-Orient à feu et à sang. On va reprendre un peu notre souffle, on va écouter un peu de musique, parce qu'après toutes ces destructions, j'ai un peu de beauté, ça peut faire de mal. C'est un groupe qui s'appelle Under 45, Under 45, ils seront en concert vendredi 31 janvier au Bistrot des Tilleuls à Annecy et le lendemain, samedi 1er février à Grenoble. D'ailleurs, jeudi à 18h30 sur Radio Campus Grenoble 90.8, je recevrai les organisateurs du concert de Under 45 à Grenoble. Donc on se retrouvera après-demain à la même heure et au même endroit. En attendant, pour vous donner envie d'aller assister à un de ces deux concerts, voici un extrait de leur album pour lequel ils sont en tournée, Under 45. Alors non, vous n'êtes pas en 1979, mais ça y ressemble beaucoup. Le groupe s'appelle Under 45. Et si vous avez envie d'écouter ce genre de post-punk idéalement revisité, eh bien, sachez qu'ils seront en concert vendredi 31 janvier au Bistrot des Tilleuls, Annecy. On embrasse les copains du Bistrot des Tilleuls. Et le samedi 1er février au bar Le Saint-Antoine... Eh ben ça y est, j'ai oublié le nom. C'est pas grave, j'ai mes notes. Je fais comme Guy Lux. Moi j'ai des notes, parce que sinon... Le Saint-Bruno, bien sûr, puisque c'est Place Saint-Bruno. Le bar s'appelle le Saint-Bruno, c'est logique. Donc, samedi 1er février, ils seront au Saint-Bruno, à Place Saint-Bruno, à Grenoble, en compagnie de Sharon Tate Moderne. Oui, il y a un jeu de mots quelque part. Et on écoutera d'ailleurs ce deuxième groupe tout à l'heure, à la fin de cette apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Jeudi à 18h, nous aurons les organisateurs du concert de Grenoble de Under 45 et Sharon Tate Moderne en direct sur la radio. Donc venez vous reconnecter avec nous jeudi à 18h. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Pierre Birichon, la cheville ouvrière du forum de l'événement, à propos de celui qui se tiendra ce lundi 3 février à 18h30 au CTM à Meylan. Le thème, c'est le Proche-Orient à feu et à sang. On a encore deux thèmes à aborder par rapport au sujet, notamment un sur la situation au Liban.
Oui.
Alors vous connaissez bien puisque vous y avez donné des cours.
Oui, tout à fait. Donc le Liban, c'est bien sûr plus grand que Gaza, mais c'est pas très très grand quand même. C'est en gros un département français.
C'est ça.
Donc le Liban donc a un régime très particulier puisqu'il est basé, c'est un régime communautaire. C'est pratiquement le seul pays arabe qui a une forme de démocratie, loin d'être parfaite, mais il y a quand même des élections régulières qui ne sont pas frauduleuses. Disons globalement qui ne sont pas frauduleuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des petites fraudes, mais voilà, ce Liban, il a subi beaucoup de problèmes et de conflits internes puisqu'il y a en fait 18 communautés différentes qui font l'État libanais et qui ont une règle, au fond, qui demande à ce que, pour beaucoup de décisions, il faut se mettre d'accord et il faut l'unanimité pour prendre des décisions. Il y a un droit de veto sur les questions importantes pour chaque communauté. Et donc ce Liban, il a été affecté par la guerre à Gaza, puisque dans ce Liban, il y a le Hezbollah Le recrutement du Hezbollah se fait chez les chiites, donc une version de l'islam. Et ce Liban, ces chiites, ils ont des liens aussi avec les chiites d'Iran. Et donc les Hezbollah a été fortement soutenu par l'Iran depuis des décennies. Et donc au moment où Gaza se déclenche, le Hezbollah, qui se veut donc faisant partie de l'axe de la résistance, comme on dit, de la résistance à Israël, ce Hezbollah, il décide au fond de faire sentir son opposition à Israël, et depuis le sud Liban, il bombarde. Mais il bombarde pendant pas mal de mois avec une certaine modération, parce que il n'a pas trop envie d'une guerre, et l'Iran non plus d'ailleurs, n'ont pas trop envie d'une guerre générale avec Israël. Donc, au départ, je dirais que c'est plus que des escarmouches, mais c'est relativement modéré. Et Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah, il met dans ses discours, il met plutôt la pédale douce. Mais ça a duré qu'un temps, parce que au fond, tout pousse, l'engrenage et les combats à Gaza et tous les morts que faisait l'offensive israélienne à Gaza, après donc évidemment l'affront qu'avait reçu Israël avec la prise de 250 otages et à peu près 1200 morts
le
7 octobre, ou dans les jours qui ont suivi, mais surtout le 7, oui. Donc progressivement, le Hezbollah n'a pas pu rester
dans une extérieure. Phase de
et puis
de
Israël, conflit à basse intensité. Israël lui aussi, à partir d'un certain moment, il en a eu marre des tirs du Hezbollah, et donc il a décidé d'attaquer fortement le Hezbollah dans ses fiefs au Liban. Ça veut dire que la souveraineté aérienne du Liban, Israël n'en a que faire. Il passe par-dessus régulièrement, et là tout particulièrement. Et donc le Hezbollah a été extrêmement affaibli, ses chefs ont été éliminés. Donc Israël a été très efficace dans son combat guerrier, c'est le moins qu'on puisse dire. Beyrouth Sud, il y a eu le centre du Hezbollah a été quasi anéanti, quoi. Il y a eu on peut rappeler, il y a eu une forme d'attaque par les services secrets israéliens qui est assez extraordinaire, qui est des beepers, c'est-à-dire les téléphones portables d'un certain nombre de militants du Hezbollah étaient piégés.
C'est ça.
Et le même jour, à la même heure, ils ont tous éclaté et ça a fait, je crois, 53 morts.
Des gens à des postes influents.
Voilà,
dans l'organisation du Hezbollah.
Ça marque aussi l'opinion publique, bien sûr.
Forcément.
Donc, le Liban, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il était depuis 2019 dans une période très compliquée de crise économique, de difficultés à se mettre d'accord entre communautés, ce qui fait que depuis 2 ans, il n'y avait plus de président de la République et le Premier ministre était démissionnaire de fait et donc ne pouvait qu'expédier les affaires courantes. Quand on est dans un état pareil, dans une situation pareille, c'est très difficile, évidemment, de répondre à à des ingérences étrangères.
Tout ceci faisant suite à l'explosion du port de Beyrouth.
Le port de Beyrouth,
qui avait déjà apporté des complications gigantesques.
Et donc, au fond, l'affaire syrienne, la chute de Bachar el-Assad, elle a aussi derrière fait bouger les choses au Liban. Et le Liban, sous pression internationale, il faut bien le dire, sous pression de la France, sous pression des États-Unis, le Liban a choisi à une large majorité son président et celui-ci a nommé un premier ministre le lendemain. Donc le Liban a retrouvé au fond des chefs, on va dire, ça ne veut pas dire qu'il est sorti des problèmes, qu'il est sorti d'affaires. Cela dit, il y a eu, après plusieurs mois aussi de négociations, 4 mois je crois, il y a eu un accord de cessez-le-feu négocié et normalement les Israéliens doivent se retirer du sud Liban et ils devaient se retirer avant le 16 février. Ils ont commencé à se retirer. Avant le 16 janvier, ils ont commencé à se retirer, mais il reste encore des Israéliens au Liban. Et le Hezbollah a voulu faire revenir des chiites dans les villages sous contrôle israélien. Et de fait, il y a eu dimanche 24 morts et 2, je crois, hier. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge,
non.
Mais c'est moins pire qu'il y a 2 ou 3 mois. Ce qui fait que, au fond, peut-être que aujourd'hui, on mettrait peut-être pas tout à fait le même titre,
oui,
parce que
il y a un peu d'espoir.
Il y a plusieurs signes.
Étincelles d'espoir. Pour une désescalade.
Voilà, pour une désescalade.
Dans les différents secteurs du conflit, parce que en fait, la zone étant. Assez complexe et avec plusieurs choses qui s'imbriquent les unes dans les autres.
Oui, tout à fait.
Donc il y a l'offensive sur Gaza, il y a la chute du régime Assad, il y a la situation politique au Liban, etc. Et qu'en fait, il est difficile d'intervenir sur un seul des sujets, puisque
ça se
perpétue, ça se mélange, ça s'interpénètre et les uns influencent sur les autres. Et c'est vrai que les ingérences étrangères d'un côté ont parfois excité les conflits, et en même temps, d'autres ingérences extérieures ont fait pression pour que justement il y ait des pourparlers, des cessez-le-feu et des avancées dans certains domaines.
Oui, tout à fait.
Donc la communauté internationale a un rôle primordial et évidemment l'arrivée de nouveaux acteurs.
Oui, et en même temps, cette communauté internationale, elle a le choix entre les acteurs internationaux plus que la communauté, mais les acteurs internationaux, avec toutes leurs différences, ils ont le choix, ces acteurs nationaux, entre soutenir Israël, soutenir les États arabes, ou être dans un entre-deux...
Où on prend des coups de tout le monde.
Oui, voilà, et un entre-deux, plus ou moins...
En essayant d'être neutre et de faire avancer les sujets, ce qui n'est pas facile. D'autant que il y a un nouvel acteur qui arrive très fort sur la scène internationale depuis à peine une semaine, avec ses gros sabots, et qu'il a un discours très, très marqué, et des soutiens politiques qui ont un point de vue très clair sur la question. Les soutiens les chrétiens qui soutiennent le régime israélien, qui sont dans l'entourage de Donald Trump, ont l'air d'avoir une idée très précise de ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Après, est-ce qu'ils en ont vraiment une aussi précise que ça ?
Oui. Après, ils sont en soutien à Israël, mais jusqu'où ils vont dans ce soutien, c'est difficile à savoir. Donald Trump, au fond, sur les questions économiques... On sait que sa stratégie est assez claire. Sur les questions d'ordre international, c'est beaucoup moins clair. Et donc, et sur ses alliés aussi internes, c'est beaucoup moins clair. Combien de temps il restera en accord avec Elon Musk, c'est pas clair du tout.
Son premier mandat a montré qu'il était changeant, ce garçon.
Voilà.
On peut être sûr qu'on est sûr de pas grand-chose, en fait, avec lui.
Oui, sauf que, dans certains domaines, il y a quand même des lignes, quoi. Sur les droits de douane,
il n'y a pas de négociation.
Il changera pas.
Non, ça il a l'air très. Ça fait plusieurs années qu'il est sur le sujet, donc.
Oui.
On est sûr qu'il va aller au bout. Effectivement, comme vous le disiez, par rapport au moment où donc lors du précédent forum de l'événement. Dans le dernier quart d'heure de ce forum, quand vous débattez et vous votez pour choisir le sujet du suivant, donc on rappelle que le suivant, ce sera le lundi 24 mars, la situation était plus préoccupante dans celui du mois de décembre, c'est ça ?
Oui.
Qu'actuellement, donc il y a un peu quelques lueurs d'espoir au bout du tunnel.
Tout à fait, il y a quelques lueurs d'espoir. Il y a actuellement des échanges donc de prisonniers, d'otages à Gaza, avec comme monnaie d'échange la libération de prisonniers palestiniens, dont des prisonniers qui avaient du sang israélien sur les mains. Donc... Israël a dû lâcher un certain nombre de choses. Il n'est pas certain que cet accord aille au bout.
On verra.
Il est en plusieurs étapes. Et la fin véritable qui serait le statut de Gaza pour l'avenir n'est pas du tout écrit. Il est encore à négocier.
Effectivement, de toute façon, quel État palestinien, une solution à deux États, etc.
Oui,
serpent de mer.
Et de fait, on imagine très mal, et les acteurs internationaux imaginent très mal qu'un futur Gaza puisse être seulement géré par le Hamas, qui est un régime très autoritaire. Et donc, il faut que l'autorité palestinienne et le Hamas s'entendent pour qu'on aille vers une solution négociée qui est à peu près un large accord. À la veille, il y a eu une enquête quantitative faite à Gaza à la veille du 7 octobre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette enquête, il y avait une question sur l'opinion des Gazaouis à l'égard du Hamas. Et l'opinion à l'égard du Hamas était pas très posée, était même assez négative.
Ouais.
Alors simplement, l'opinion s'est devenue beaucoup plus favorable au Hamas dans le contexte de la guerre lancée par Israël. On comprend cette guerre parce que c'est vrai que le coup de force du Hamas était...
Ne pouvait pas rester sans impuni.
Réponse.
Ça paraissait évident. On espère quand même que les choses vont aller plutôt dans le sens de la désescalade entre les différents acteurs. Les premiers mouvements sont plutôt dans le sens d'un espoir, de petites avancées. Après, c'est la théorie des petits pas. Et on ne pourra pas faire... D'autant que le contexte international, au sens mondial, on le disait avec la situation de la Russie en Ukraine, mais là aussi, ce qui se passe en Iran, ce qui peut se passer aussi un peu plus loin, les tensions dans la mer du Japon, etc., peuvent aussi, par contre-coup, avoir... parce que l'actualité étant ce qu'elle est, il y a le conflit en Ukraine, il y a le Proche-Orient... Si d'un coup il y avait une escalade, je ne sais pas, entre la Chine et Taïwan par exemple, ou sur des petits îlots dans la mer du Japon, peut-être que ça prendrait de nouveau le pas sur la situation au Proche-Orient qui viendrait avec moins de soutien et d'intérêt de la communauté internationale, etc. etc. Donc on croise les doigts pour nos amis qu'on connaît et qui vivent là-bas, ou qui espèrent y retourner très bientôt, que les choses vont aller plutôt dans le bon sens. Donc, on rappelle que le forum de l'événement se tiendra lundi 3 février à 18h30 au CTM de Mélan, le centre théologique de Mélan, un très bel endroit qu'on peut y assister en présentiel, mais qu'on peut aussi y assister en Zoom en passant par le site du CTM le jour même pour cliquer sur le lien. Que donc le thème, je crois, on l'a bien compris, c'est un Proche-Orient à feu et à sang, en espérant que ça s'améliore. Et que donc, comme chaque fois, le dernier quart d'heure sera consacré à un vote pour savoir quel sera le thème du prochain qui se tiendra lundi 24 mars.
Tout à fait.
Et vu la situation actuelle dans le monde, les sujets ne vont pas manquer, je pense.
Oui, oui. Je crois qu'on on a jamais de problème pour trouver un sujet.
C'est ça la bonne nouvelle. Vu que je vous ai sous la main et que c'est vous qui avez lancé le forum de l'événement, on rappelle depuis combien de temps ça existe ?
Bon, à peu près 35 ans.
Oui, quand même.
Oui, oui.
Il va falloir célébrer ça. Il va falloir retrouver la date du premier pour célébrer la chose.
Oui, oui, oui.
Et on se revoit pour parler du prochain ?
Oui, tout à fait, bon, avec plaisir.
Cool. Voilà, si vous voulez aussi, s'il y a des sujets... Si, d'abord, vous pouvez assister à celui-ci. Et l'intérêt d'assister à celui-ci, c'est que si vous avez envie d'avoir l'expertise de spécialiste sur un sujet qui vous intéresse, vous pourrez voter pour que le prochain se tienne dans le sens qui vous intéresse.
Voilà, tout à fait. Et les deux intervenants qui seront là le 3 février sont particulièrement compétents sur
le prochain. Je vais regarder leur CV, ils ont l'air de pouvoir bien en parler, oui. J'ai bien fait mes devoirs, hein, mais j'ai un professeur à côté de moi, alors on ne peut pas faire n'importe quoi. Et bien, merci à vous, Monsieur Pierre Bréchon.
Merci, Bertrand.
À la prochaine fois. Et comme promis, on va terminer cette apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 avec le deuxième groupe qui sera à l'affiche vendredi 31 janvier au Bistrot des Tilleuls à Annecy et samedi 1er février au bar Le Saint-Bruno, place Saint-Bruno à Grenoble. Donc le deuxième groupe, celui qui accompagnera Under 45 qu'on écoutait juste avant, s'appelle Sharon Tate Moderne. Et c'est avec eux qu'on va terminer cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt sur les ondes du campus Grenoble 90.8.